Et c'est vrai qu'un conflit malheureusement chasse l'autre. Les médias européens se focalisent sur l'Europe et le conflit russo-ukrainien et également sur les possibilités qu'a l'Union européenne de renforcer sa défense. Mais la situation continue à être très tendue au Moyen-Orient. On en parle dans nos conversations avec Daniel Haber qui, comme d'habitude, est au micro et répond aux questions de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka en ce lundi matin. Alors ce matin, Daniel, dans nos conversations, nous allons faire un bilan de la situation sécuritaire et géopolitique d'Israël en ce moment. Nous l'avons vu, hein, nous l'avons tous vu, les médias européens aujourd'hui se focalisent sur l'Europe et sur le front russo-ukrainien, mais la situation continue à être très tendue au Moyen-Orient. Éclaircissez-nous un petit peu.
Alors, si vous voulez, il y a des aspects extrêmement positifs qu'il faut rappeler parce que la vie en Israël a repris hein, fondamentalement, mais il reste des aspects inquiétants et je vais essayer de les regarder de plus près avec vous. Les aspects positifs. C'est bien de temps en temps de se relever le moral. Le premier, évidemment, c'est que depuis le début de 2025, Israël ne reçoit plus de missiles, de roquettes. C'est calme. Il n'y a plus toutes ces sirènes qui, je sais, les Israéliens le disent, on est habitué, mais on s'habitue vraiment pas tout le temps et je crois que ça pèse sur les nerfs. Et là, il y a un calme qui est revenu. Le deuxième, c'est que le plus grand nombre de réservistes ont été libérés. C'est-à-dire que quand j'appelle mes amis, vos amis, la famille, ils ont tous récupéré leur fils, leur fille, leur petit-fils et leur petite-fille. Ils sont rentrés chez eux, ils sont en famille, ils travaillent. Donc ça, c'est un grand soulagement. La troisième, c'est évidemment qu'il y a deux cessez-le-feu avec les deux ennemis les plus agressifs, hein, le Hamas et le Hezbollah. Cessez-le-feu ont été signés au début d'année et ils sont en cours d'exécution. Alors, c'est vrai que il y a des violations, d'ailleurs, de part et d'autre, hein, de ces cessez-le-feu, mais on voit que dans le nord, Israël est extrêmement vigilant parce que c'est là qu'il a le plus d'inquiétude et il occupe des positions militaires stratégiques à la frontière qui sont, à la limite du respect des accords, mais qui sont soutenues de toute façon par les Américains. Et donc, ça permet à Israël d'être extrêmement vigilant et surtout, ça permet à tous ces réfugiés israéliens du nord qui s'étaient réfugiés à l'intérieur, de commencer à revenir, à faire le bilan, parce qu'il y a eu beaucoup de maisons détruites, voir comment on peut reconstruire. Et tout le monde pense qu'à la fin de l'année scolaire, il y aura un grand mouvement de, sauf s'il se passe quelque chose hein, de grave, il y aura un grand mouvement de réinstallation. Alors, à Gaza, c'est un peu plus compliqué, mais on voit en fond qu'Israël est en train de renégocier l'accord du 19 janvier. L'accord du 19 janvier en trois phases. Alors on oublie la troisième qui s'appelle la reconstruction. C'est pas pour demain. Mais les deux phases, la phase 1, elle est terminée. Il y a eu un échange d'otages contre de très nombreux terroristes. Et on devrait passer à la phase 2. Or la phase 2, telle qu'elle a été négociée le 19 janvier, est extrêmement négative pour Israël. Je pense qu'elle a dû subir une pression terrible pour des États-Unis pour signer un petit peu n'importe quoi. Et les Israéliens et les Américains s'aperçoivent que c'était une très mauvaise négociation. Et donc, il y a une renégociation en cours de la phase 2. En gros, le Hamas rêve de rester à Gaza. Et donc que Tsahal quitte Gaza et eux resteront. Et donc ça, il n'en est même pas question pour Israël, qui veut à la fois récupérer ses otages et empêcher que le Hamas reste. Donc ici, il y a une négociation qui est en cours et on en parlera, je pense, dans les jours qui viennent. Et la quatrième bonne nouvelle, c'est évidemment que la Syrie, qui est un acteur important au Moyen-Orient, a changé de camp, est passée de l'Iran, en gros, à la Turquie, pour aller vite. Elle a brisé l'axe chiite au nord d'Israël, donc c'est un grand soulagement pour Israël, parce que ça fragilise encore plus le Hezbollah qui ne peut plus facilement se réarmer. Et surtout, Israël profite de l'incapacité de ces groupes terroristes qui ont pris la Syrie, qui ne savent pas gérer un État, pour faire le ménage au sud du pays et détruire toutes les installations militaires en se disant que ce régime finira par devenir hostile. La cinquième nouvelle, c'est que en Judée-Samarie, les actions de Tsahal pour démanteler les nombreux groupes terroristes, le Hamas est là-bas, le djihad islamiste est là-bas, et beaucoup d'autres qui préparent des attentats, Tout ceci est une action préventive parce que, au fond, la grande crainte d'Israël, c'est que le Hamas se redéploie en Judée-Samarie et transforme la Cisjordanie en nouveau Gaza. Donc, il faut l'éviter. Et donc, on voit bien que l'autorité palestinienne n'y est pas favorable, évidemment, et les Américains soutiennent Israël entièrement. Le sixième point, c'est il est clair que l'Iran, qui a été mis à nu hein, par la défaite de tous ces boucliers terroristes, finalement se replie sur la poursuite de son programme nucléaire. Donc il fait profil bas, il se fait pas trop entendre parce qu'il veut accélérer le programme avant qu'on lui dise de pas le continuer. Et donc il se prépare donc à cette grande négociation avec les Américains. Septième bonne nouvelle, c'est que on a un nouveau chef d'état-major en Israël et qu'il a pris en compte très vite la faillite du 7 octobre pour revoir à la fois les conceptions de défense d'Israël et l'organisation même de l'armée. Donc ça, c'est en cours et ça se fait très très vite. La huitième bonne nouvelle, c'est que l'économie d'Israël a relativement bien résisté et elle redémarre de façon plutôt satisfaisante. Et enfin, la dernière, c'est que avec les Américains, Israël a un allié qui ne mesure pas son appui. Il n'y a pas de contradiction dans la position des Américains, comme c'était du temps de Biden. Donc, si vous voulez, on a une série de bonnes nouvelles, mais.
Oui, justement, Daniel, là, on vous dressait un tableau qui est plutôt optimiste, mais il reste des aspects qui sont inquiétants à cette guerre.
Bien sûr, bien sûr. Alors, il y en a cinq aspects qui sont pas positifs. Le premier, c'est que Israël a gagné des batailles, mais n'a pas gagné la guerre. C'est-à-dire que tous ses ennemis ont été défaits, affaiblis, mais ils sont toujours là et ils ont tous l'espoir de se refaire, de se reconstituer et le moment venu, de réattaquer Israël. Donc ça, c'est évidemment le plus inquiétant. Sur le deuxième chose qui évidemment mine la situation d'Israël, c'est les otages. Il reste 40, 34 otages présumés vivants. Il y en a 24 qui ont été déclarés officiellement morts par Tsahad. Et donc, il reste une colère chez les familles et tous ceux qui les soutiennent. Et donc, on voit recommencer toutes ces oppositions intérieures en Israël, tous ces débats, ces divisions, avec un étalage de rancœur à l'intérieur même des organisations d'État. Donc, une partie du temps précieux des dirigeants est consacrée à des querelles un petit peu vaines. Troisièmement, les Houthis, dont on n'a pas entendu beaucoup parler, on refait parler d'eux en menaçant d'envoyer des missiles. Mais là, la réponse américaine, donc je l'enlève des mauvaises nouvelles pour la mettre dans la bonne, les Américains ont réagi hein, ces jours derniers en prenant enfin l'initiative de mettre fin au blocage de la mer Rouge, qui est quand même un acte de guerre tout à fait exceptionnel et qui est au fond inacceptable par tout le monde, hein, aussi bien par les Chinois que par les Américains, mais les Américains ont décidé d'agir et les Chinois les laissent faire. La mauvaise nouvelle, évidemment, c'est que l'Iran continue de vivre, de survivre, et vend tout son pétrole, justement, à la Chine, et les États-Unis, et les ayatollahs, pardon, défient les États-Unis. En disant, moi je veux bien négocier, mais on ne va pas parler du programme nucléaire, ce qui est la ligne rouge de tout le monde, alors qu'il y a un consensus général pour dire il ne faut pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, parce que c'est le début d'un nouveau processus de dissémination nucléaire, parce que tout le monde en voudra derrière. Donc là, il y a un vrai problème dont il faut attendre les jours, les semaines qui viennent pour essayer d'y voir clair. Et enfin, les Américains, ben, on voit bien qu'ils sont pas pressés d'entamer la grande négociation au Moyen-Orient. Ils ont beaucoup à faire avec Poutine. Et puis surtout, ils ont lancé une guerre commerciale tous azimuts, qui prend beaucoup de temps parce qu'ils négocient avec des cinquantaines de pays, des accords particuliers. Donc la grande négociation est ainsi retardée. Et donc Israël doit vivre un petit peu dans cette situation, aspect positif, aspect négatif, un peu donc avec des inquiétudes qui restent.
Oui, pour conclure, Daniel Haber, en une petite minute, et on aura évidemment l'occasion d'y revenir dans de prochaines conversations, au moment des négociations fatidiques, quels seront les points primordiaux quels seront les enjeux?
La situation est aujourd'hui très très claire. On pensait qu'on allait devoir négocier avec l'Iran seulement, mais en fait, il faut négocier avec les trois puissances régionales que sont l'Iran, la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui toutes les trois aujourd'hui prennent des positions d'ambition, souvent contradictoires. Et donc, quand viendra le moment des négociations, ça ne pourra pas être une négociation seulement avec l'Iran. On voit bien que la Turquie, grâce à son succès en Syrie, renouvelle un petit peu ses ambitions qu'on appelle néo-ottomanes, le retour au Grand Empire ottoman. Et puis surtout, l'Arabie Saoudite, qui est la clé de tout, d'une certaine manière, y compris la clé de la solution à la question palestinienne, il faut qu'elle soit prise en main. On voit bien que l'Arabie Saoudite observe et s'aperçoit que les Américains ne sont pas d'une fiabilité totale. Il y avait déjà l'Afghanistan, il y avait tout Biden qui s'en était pris personnellement à Mohamed Ben Salman. Et puis là, on voit que les Américains retirent le support à l'Europe avec ce fameux article 5 de l'OTAN. Pense même se retirer de l'OTAN. Donc, si vous êtes saoudien, vous vous dites, je veux bien me mailler solidement avec les États-Unis, mais quels États-Unis? Quelle est la fiabilité? Je crois que ce sera la difficulté. Et donc, la négociation, ce sera une négociation avec plusieurs puissances, sachant que les puissances extérieures, Russie, Europe et surtout la Chine, observeront tout ça et voudront peut-être être partie à la négociation. Donc, la négociation dont je conclusais qu'elle viendra un peu tard, elle sera alors très longue et très complexe, et encore plus que ce qu'on voit avec Poutine et les Américains.
Et je pense qu'on aura l'occasion, hein, dans nos conversations, de revenir sur la situation géopolitique mondiale, parce que en ce moment, elle est très complexe. Merci beaucoup, Daniel Hébert, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio
La semaine
Judaïka.
prochaine, oui,
On
au
se retrouve la
revoir.
semaine prochaine.